Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui renaît suite à une tragédie, qui renaît grâce aux mots pour évacuer ses maux. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nadia Messari, bonjour.
Bonjour Alella.
Merci infiniment.
Merci de m'avoir conviée également à cet entretien. Merci beaucoup.
Merci à vous d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Alella, Nadia ?
Alhamdoulilah, Yasmine, l'Ertek, merci beaucoup.
Merci infiniment. Alors Alella, Nadia, vous êtes une amoureuse des mots, c'est bien ça ?
Tout à fait. Tout
et depuis toujours ?
C'est-à-dire que je me suis découverte cette passion. En fait, je ne savais même pas que je pouvais un jour écrire un mot ou ni être amoureuse de mots. C'est une découverte qui est venue après une fatalité au décès de mon mari.
D'accord.
Et j'avais envie d'évacuer un tas de choses. Et puis c'est venu et ça m'est tombé dessus en fait.
En fait, vous avez eu deux vies en quelque sorte, celle d'avant l'écriture et celle d'après.
Oui, exactement.
Alors, Alella, Nadia, vous étiez qui avant l'écriture ?
J'étais une femme lambda, c'est-à-dire une mère au foyer. Enfin, pas une mère au foyer, je travaillais, mais j'étais une maman de deux enfants. Je faisais ma vie quotidienne, normalement, le boulot, la maison, les enfants, le mari, mais tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Voilà ce que j'étais avant.
Et ensuite, il y a
à la mort de mon mari, tout a changé. En fait, je suis passée, comme vous dites, d'une vie à une autre. C'est-à-dire, je me suis retrouvée seule, chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant. J'ai toujours été très, très bien accompagnée par mon mari, que j'adorais d'ailleurs. Et puis, en me retrouvant seule, il me fallait un appui. Eh bien, écoutez, l'appui, ça a été les mots, en fait. Ça a été les mots.
Est-ce qu'on vous a orienté vers ça ? Est-ce que c'est une thérapie qui vous a orienté vers, comment on dit, accoucher de ces mots M-A-U-X à travers les mots M-O-T-S ?
Exactement.
C'est
exactement, ça ? Yasmine. C'est ce qui m'est arrivé. En fait, voilà, je vous explique comment c'est arrivé.
Absolument.
Alors, j'étais au travail un jour et j'avais un petit bout de papier dans mon sac. Ce petit bout de papier, c'était le résultat d'un rêve que j'avais fait. Alors, j'ai fait ce rêve le matin, je l'ai transcrit sur un bout de papier. Et puis, un jour, j'étais près de mon ordinateur, je me dis, tiens, ce rêve, j'ai bien envie de l'écrire. Alors, j'ai écrit ce rêve exactement. Et puis, au fil des jours, je rallumais mon ordinateur et je revoyais cette tranche de rêve. Et finalement, c'est de là qu'est venue l'écriture, parce que c'était comme une trame que j'avais défilée au fil du temps. Et qui m'a donné un livre qui s'appelle « Tout doucement, sans faire de bruit » et qui parlait de lui, en fait, de ce que nous avons vécu, de notre famille. C'était une autobiographie. Mais c'est en le faisant lire à des amis, notamment à une amie de Rabat, il m'a dit « Écoute, mais c'est très beau, mais pourquoi tu ne l'édites pas ?» Je dis « Je n'ai jamais écrit pour éditer. » Il m'a dit « Il faut éditer. » Alors, avec l'aide de certaines personnes, j'ai commencé à chercher des maisons d'édition. Et puis, j'en ai trouvé une en France qui a bien voulu m'éditer, tout doucement, sans faire de bruit, qui a été vraiment le fil déclencheur de ma vie artistique, littéraire, etc.
Alors, tout doucement, sans faire de bruit, c'est synonyme de son départ ?
C'est synonyme de son départ. Il est venu tout doucement, sans faire de bruit dans ma vie, parce que suite à des événements de mes parents qui n'ont jamais voulu de lui, etc., puis il est reparti aussi doucement, sans faire de bruit, emporté par un cancer qui l'a rongé pendant quelques années.
Et quand vous dites tout doucement, sans faire de bruit, la vie commune qu'on a passée ensemble, notre famille, c'est aussi parler de cette relation amoureuse. Dans notre culture marocaine, on est très pudique par rapport à ça. C'est-à-dire quand on...
Écoutez, j'en ai parlé très ouvertement.
Oui.
Je n'ai rien oublié, je n'ai rien omis de ma vie avec mon défunt. Et j'en ai parlé très ouvertement. D'ailleurs, certaines personnes de la famille m'avaient reproché un certain nombre de choses que j'avais dites, mais que j'avais envie de dire parce que c'était ma réalité et que j'en faisais ce que je voulais.
Oui, mais c'est ça en fait, c'est qu'on ne laisse pas les gens vivre leur intimité tranquillement
Non.
et même les
Hélas.
souvenirs de l'intimité en fait.
Hélas, hélas, on est encore dans un dans une bulle qui nous écrase pratiquement. Et surtout la femme. Bon, l'homme, je ne sais pas, mais surtout nous, les femmes, on est obligées à ne pas dévoiler nos sentiments, de ne pas dévoiler certain nombre de choses qui, en fait, font de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Des êtres humains.
Des êtres
Êtres
humains,
humains,
tout simplement.
absolument, absolument, absolument.
Ouais.
J'ai reçu il y a quelques semaines de cela une autre femme pour parler du deuil de son mari et du changement de
Ouais.
regard de la société sur elle après le départ de son mari. Elle aussi maman
Oui.
de 3 enfants,
Oui.
qui avait une vie active avec son mari et puis il décède et tout change en fait. Tout l'entourage
Effectivement.
change, le regard de la
Je
société
suis d'accord
change,
avec elle.
tout a changé autour d'elle,
Tout
le groupe d'amis. Est-ce que vous avez vécu ça aussi?
à fait. Écoutez, je l'ai vécu intensément et jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans qu'il est décédé. Et ce qui m'a le plus fait mal après son décès, c'était justement le groupe d'amis. Nous avions des groupes d'amis très très proches, c'est-à-dire qu'on était pratiquement une famille. Et tout d'un coup, à moins d'un mois après son décès, les regards ont changé, les visites sont devenues pratiquement inexistantes. Et je n'avais pas compris sur le coup, j'avais absolument pas compris. Je me disais, mais attends, je rencontrais ces gens, ces amis, pas ces gens, ces amis, pratiquement des personnes de la famille. Je les rencontrais dehors. Et puis, ils faisaient même semblant, des fois, de ne pas me reconnaître quelques mois après le décès de mon mari. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre cette indécence de l'homme. C'est de l'indécence. C'est pas parce qu'une femme a perdu un mari que vous allez lui ajouter encore un autre deuil, celui de ses amis. C'est moche. J'en ai souffert énormément.
Ouais. Alors, Hélène Nadia, est-ce
Jusqu'à
que c'est...
aujourd'hui, je me pose la question.
Oui?
Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question pourquoi?
Vous...
Je n'arrive pas à trouver
Ouais.
le pourquoi. Je ne sais pas.
Le changement, il émane surtout des femmes, parce que quand c'est des groupes d'amis, quand on est marié, en général, c'est des groupes mixtes, en fait. Le changement émane des femmes ou des
Oui,
époux ou
mais
des deux?
Yasmine, y a une chose que je dois vous dire. Une femme, quand elle refuse de voir une autre femme, c'est tout son entourage qu'elle rejette, qu'elle fait rejeter, vous comprenez? Tout son entourage. Donc, si une femme me rejette, automatiquement son mari va me
Bien
rejeter, ses
sûr,
enfants vont me
bien
rejeter.
sûr.
Pourquoi? Mais pourquoi? Je me demande bien pourquoi.
Ben, ce que disait cette dame et ce que j'ai souvent entendu aussi à travers les témoignages des femmes dans Femmes d'aujourd'hui, c'est que ce soit une femme divorcée ou une femme veuve, après quand les choses se passent, soit qu'elle divorce, soit qu'elle perd son époux, elle est perçue comme une rivale, elle devient perçue comme une rivale. Et donc le pourquoi, c'est peut-être ça. Est-ce que vous avez pensé à ça, justement?
J'y ai pensé très récemment. Mais est-ce qu'une femme qui vient de perdre un époux peut être une rivale? Elle a bien d'autres chats à
Fouetter,
fouetter,
absolument,
sincèrement.
absolument.
Elle a un deuil à faire. Elle ne pense même pas à ce genre de choses. Mais malheureusement, le cerveau de l'humain, des fois, peut être très, très mal tourné. Hélas, mais bon. Mais c'est bien, ce sont des choses que j'ai apprises et qui ont fait que j'ai appris beaucoup de choses à travers le mauvais fonctionnement de l'être humain. Pas grave.
Mais alors justement, 14 ans après, ça vous fait encore mal de
Oui,
perdre? Oui.
puisque j'en parle.
Oui,
Puisque
absolument.
j'en parle et
Ouais.
puisque ses amis m'étaient très très chers et c'est dommage quoi, c'est dommage.
Ouais. Vous avez renoué de nouvelles relations amicales? On arrive à refaire
Oui,
confiance malgré tout?
ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis entourée de beaucoup d'amis, autant femmes qu'hommes, que de couples. Et sincèrement, je n'ai pas retrouvé dès que la rivalité que j'avais retrouvée avec mes amis de jeunesse. C'est-à-dire avec qui on a passé de très très longs moments. Aujourd'hui, dans le groupe de mes amis, on me prend vraiment, on me prend dans les bras. C'est-à-dire et je fais partie intégrante de leur vie. Même des couples qui sont récemment mariés, et écoutez, ils m'adorent et puis ils m'intègrent dans leur vie pratiquement, dans leur famille, sans aucun problème.
C'est dingue, en fait. Ceux avec qui on a eu l'habitude de vivre en couple nous tournent le dos et ceux que l'on rencontre après dans cette nouvelle situation nous prennent dans les bras.
Oui. Ah oui, c'est incroyable, mais j'ai une vie extraordinaire et qui est due en grande partie à mes amis, que je remercie au passage et que je n'oublierai jamais. Ils se reconnaîtront tous.
Oui. Est-ce que cette nouvelle vie littéraire vous a appris des choses sur la femme que vous êtes ?
Oui, énormément, parce que je me suis décortiquée moi-même. Alors, quand j'étais mariée, c'était la vie de foyer, de mère, de femme, d'épouse. C'était une vie conventionnelle de toute femme qui se marie un jour. Mais quand vous vous retrouvez seule, des fois, vous vous posez des questions et vous vous dites, je suis qui, au fond ? Et ça, je l'ai écrit. Des fois, dans mon sommeil, je me réveille et puis j'écris ce que je suis. Et ce que je suis devenue et ce que je suis heureuse d'être aujourd'hui.
Vous vous posiez ce genre de questions avant
jamais.
Pourquoi ?
Absolument pas. Absolument pas. J'étais trop accaparée. Non, je ne me posais pas du tout ces questions. C'est comme vous l'avez dit au départ, il y a une vie avant, il y a une vie après. Et ma vie d'après a totalement changé. Et je l'aime d'autant plus. C'est pas parce que je n'aimais pas ma vie d'antan, non, au contraire. Mais c'est tout autre chose, une vie que j'apprécie et que je vis goulûment, comme on dit, avec avidité. Alhamdoulilah.
Est-ce que parfois, il y a une forme de culpabilité d'apprécier cette nouvelle vie ? Parce qu'elle est venue après le départ de votre mari.
Oui, ça m'est arrivé en fait les premières années. Oui. De mon veuvage, oui, les premières années, oui, un petit peu. Mais après, je suis devenue beaucoup plus égoïste avec moi-même et beaucoup plus sereine avec moi-même. J'ai fait la paix avec moi-même et je me dis, au fond, je ne fais rien de mal. C'est une personne qui m'a aimée jusqu'au bout, que j'ai aimée jusqu'au bout. Et j'ai tout donné jusqu'au bout. Et puis là, j'ai encore une tranche de vie à mener. Pourquoi ne pas la mener dans de bonnes conditions et de manière heureuse ?
C'est à travers vous aussi, c'est s'autoriser à continuer son chemin de vie. C'était en couple, exactement. Maintenant c'est en tant que femme. Et voilà, malheureusement et heureusement, la vie ne s'arrête pas, quelle que soit la perte. Que ce soit celle d'un époux, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, la vie continue et elle doit continuer.
La vie continue, elle ne s'arrête pas. Et ce serait dommage, ce serait vraiment du gaspillage que d'arrêter de vivre suite à une perte.
Oui, absolument.
Parce que la vie est très courte d'abord, on n'en a qu'une. Donc il faut la varier, il faut en faire quelque chose de beau. Pour ne pas un jour avoir, quand on sera de l'autre côté, enfin près de l'autre côté, près de l'au-delà, quand on sera malade, fatigué, ne pas avoir à regretter ce qu'on n'a pas fait un jour et ce qu'on aurait dû faire.
Vous continuez parfois à rêver de lui, du défunt ?
Tout le temps.
Il vous visite dans vos rêves, comme on dit ?
Tout le temps.
C'est vrai ?
Tout le temps. Tout le temps. Et le problème, c'est que dans ma vie actuelle et dans ma vie d'il y a quelques années, je fais énormément de comparaisons. Comment il était, comment l'autre sont, comment il faisait, comment les autres font. Et ça, voilà, mais ça, je n'y peux rien. C'est quand même 32 ans de vie commune. On ne peut pas jeter ça dans les oubliettes.
Quand vous dites je compare, c'est-à-dire par rapport aux autres hommes ?
Par rapport aux autres hommes, bon, j'en ai pas connu beaucoup, j'en ai pratiquement pas connu, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que je suis restée dans la vie de mon défunt, non, mais c'est tout simplement que je me complais dans ce que je vis actuellement.
Oui.
C'est vraiment une complaisance. Mes enfants sont grands, ils sont mariés, ils ont leurs enfants. Alhamdoulilah, je les vois très heureux et j'en suis heureuse. Donc moi, je vis seule. Mais la solitude, je la comble, mais totalement. Je la comble de ce que je suis, de ce que je fais. Et je fais beaucoup de choses, en fait, à part l'écriture, je fais beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas le temps de penser à autre chose ni à quelqu'un d'autre.
Alors, ça aussi, si on peut un petit peu avancer sur ce point, parce que c'est très important aussi de... vous vivez un cas de figure qui arrive aux hommes et aux femmes aussi, après la perte d'un être cher, que ce soit le mari ou l'épouse, c'est des compagnons de la vie, quelle que soit cette vie qu'on a pu avoir ensemble. Mais de ce que j'ai pu constater autour de moi, lorsque la mort arrive, on oublie tout ce qui a pu être négatif et on ne garde que le positif de cette personne avec laquelle on a partagé sa vie. Et finalement, il y a un vide qui se crée. Vous avez aimé cet homme. Et j'ai l'impression que vous continuez à l'aimer amoureusement aussi, même après son départ. Et vous avez décidé de prendre votre vie en main, de ne pas vivre le vide, mais de vivre une nouvelle vie. Beaucoup de personnes se retrouvent un petit peu perdues après le départ d'un être cher, ne sachant pas forcément comment se structurer une nouvelle vie, pour ne pas dire s'inventer une nouvelle vie, mais plutôt se structurer une nouvelle vie.
Oui, mais écoutez, moi, je ne vous cache pas qu'après la mort de mon défunt, j'étais complètement perdue. J'étais complètement sonnée. Je ne savais pas comment aller, mais c'est l'écriture qui m'a remis sur le droit chemin. Enfin, sur le bon chemin, je veux dire. L'écriture, il a fallu que je sorte des choses dont je n'ai pas parlé depuis, des choses de l'enfance, des choses de mes parents, les choses de ma famille, de ma petite famille. Et voilà, mais c'est ça qui m'a donné, qui m'a ouvert un chemin que, en fait, ce chemin, je l'ai apprécié, je l'ai choisi, je l'apprécie encore aujourd'hui et je m'y sens très, très bien. Je ne suis vraiment pas... vous savez, on n'a pas besoin de dire « Ah, la pauvre, mais elle est toute seule ». Mais non, pas du tout. La solitude aujourd'hui, elle n'est pas donnée à tout le monde. D'abord, ce n'est pas une solitude. Parce que quand on est bien avec soi-même, on n'est pas seul.
Absolument.
Et voilà, on a besoin de personnes pour être bien. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir, qu'on pourrait visiter, qu'on pourrait faire, qu'on pourrait aimer, que bon, en fait, ça ne se cantonne pas à rencontrer un homme, à refaire sa vie. Moi, je n'ai pas choisi ce chemin. Je n'ai pas choisi. J'ai choisi de ne pas le choisir. Voilà. Et la vérité, je ne le regrette aucunement.
Vos enfants dans tout ça, est-ce que parfois, en tant qu'enfant, pas enfant en âge, mais en tant que progéniture en quelque sorte, lorsqu'ils devaient refaire leur vie, se marier, partir, vivre ailleurs, etc., il y a aussi, j'imagine, ces discussions autour de d'une forme de culpabilité qu'on peut ressentir en tant qu'enfant d'un parent qu'on laisse seul.
Écoutez, moi, mes enfants se sont mariés avant le décès de l'Arbi. Je voulais nommer de l'Arbi. Donc, le problème ne s'est pas posé. Et ils se sont mariés avant, ils sont partis. On a toujours été très fusionnels jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où on ne se parle pas, où on se voit même pratiquement tous les jours. Donc, ce problème, en fait, ne s'est jamais posé pour moi. Je ne pense pas qu'ils aient... Ils ont un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Donc, ça m'étonne. Il n'y a pas de vide qui fasse qu'il soit coupable de quoi que ce soit.
Oui, absolument. C'est une chance que vous avez eue finalement de tomber par hasard sur cet amour de l'écriture.
Oui.
Vous pensez que c'est un
cadeau
de
ma vie, en fait.
Oui.
Vous
pensez que c'est un cadeau
du bon Dieu.
Du bon Dieu, et oui. C'est ce que vous a laissé.
Oui.
Votre défunt mari?
Oui, c'est d'abord grâce à ce fameux rêve que je suis ce que je suis aujourd'hui et que vous retrouverez en lisant mon premier livre en première page. Et c'est à cause de ça que voilà, je meuble mon temps, je meuble ma vie, je meuble tout ce qu'il y a autour de moi avec l'écriture. Il n'y a pas un jour où je n'écris pas. Par rapport, je suis romancière, j'écris, j'observe énormément de choses, mais je suis aussi poétesse. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas un, si ce n'est deux poèmes par jour. Donc rien que ça, mais je le fais. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. En général, j'écris pendant la nuit. J'écris quand je suis dans mon lit. Et des fois, j'écris sans m'en rendre compte. Et puis après, je me relis, je me dis, mais c'est très beau. Mais avant, et puis moi, je jette tout sur Facebook. Donc, j'ai un groupe pour l'amour de la poésie sur Facebook. Donc, je jette pratiquement tous mes poèmes là-dedans. Mais c'est un des fois, je rentre en transe quand je finis un poème. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est l'effet que me fait l'écriture, en fait. L'écriture, peut-être qu'avant, je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas adoptée, mais je ne vous cache pas que moi, j'ai passé un bac littéraire, que j'ai raté, et puis j'ai arrêté mes études là. Et pendant mes cours de philo, on faisait énormément de philo, j'étais pratiquement en classe à faire le cours avec mon prof, et je ne savais même pas d'où ça sortait. Donc ça, déjà, je pense que j'avais déjà un terrain assez fertile et assez propice à l'écriture. Et bon, je ne l'ai reprise qu'à la mort de Larbi, hélas, et puis voilà. De fil en aiguille, ça m'a donné 3 bébés, qui sont 3 romans qui sont magnifiques, qui ont énormément plu, et puis la poésie.
Oui. On peut en vivre ? Vous arrivez à en vivre ?
Absolument pas.
Non.
Absolument pas.
C'est vraiment la passion.
Mais alors, pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. Non, c'est une passion qu'on écrit. Et puis, c'est aussi, pour moi, l'envie de laisser quelque chose derrière moi. Vous savez, partir comme ça, on part très, très vite. Hein, sans rien laisser derrière, moi, je trouve que c'est dommage. Donc, moi, dans mon esprit, écrire, ça a toujours été laisser d'abord mes enfants, qui sont mes progénitures, qui seront là quand je serai partie. Mais il y a aussi ces livres qui sont aussi mes enfants. J'en ai fait mes enfants qui vont rester, qui vont être lus après moi. Et puis, c'est une mémoire qui va vivre à travers eux. Quoi. Et ça, c'est une chance aussi. Moi, je trouve que c'est une énorme chance. C'est-à-dire que Nadiem Seris Bey n'a pas vécu comme ça, pour rien du tout. Elle a écrit, puis elle a laissé des mots. Elle a laissé des mots qui lui ont servi, qui l'ont guéri, et voilà.
Nadiem Seris Bey, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci énormément à vous. Et puis, pour ce moment de partage, j'ai sorti ce qu'il y avait de plus profond en moi. Je n'ai rien préparé.
C'est donc, le but, c'est voilà, le but de ce rendez-vous féminin. Honnête, voilà. Vrai, complet.
Ça m'a fait plaisir de vous parler.
Et moi aussi.
Ça m'a fait énormément plaisir de vous parler.
Moi aussi, Léla. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre confiance. Léla Ertek, merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.